Il y a plein de vides dans l'histoire de l'art, mais je trouve que c'est vraiment de s'attarder sur une œuvre ou une période. Je continue à garder la chronologie. Si vous regardez l'ère de rien, vous avez vu le début depuis Château-Lévis, Égypte, etc. On avance pas mal. Hein. Et donc, on avait terminé avec le XVIIe siècle, et j'avais terminé, mais j'avais bâclé. Donc, je compterai reprendre sur Velázquez et Dessileuse aujourd'hui, pour faire une sorte de transition. Puisque c'est intéressant. Normalement, ce semestre, on devrait voir donc Vermeer, un artiste qui est un artiste, une sorte d'avatar assez étrange, qui s'appelle Bonsu Desiderio, qui n'est pas très connu et qui est intéressant. Alors, j'ai appris récemment, je ne savais pas que Michel Ancelot en avait parlé, il y a déjà plusieurs années, mais c'est quelqu'un d'assez intéressant. On refera un petit peu d'architecture avec Borromini. Donc, on est quand même toujours dans le XVIIe siècle. Tiepolo, XVIIIe siècle, Venise. Bateau, alors, j'aborderai aussi une femme artiste, Giulia Lama. Bateau, la leçon de musique autour de Bateau du XVIIIe siècle en France. Puis Chardin aussi, XVIIIe siècle en France, avec une de ses œuvres, la pourvoyeuse, qui sont toujours. Ensuite, alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça m'étonnerait que j'arrive jusqu'à Goya et David plus tard. Et femme et néoclassicisme. Donc, ça, c'est des chapitres qui seraient au second semestre. Donc, on va continuer. Alors, j'essaierai aussi d'aborder ce que j'ai déjà fait dans les trucs précédents, de réhabiliter soit les figures féminines, soit les femmes artistes, puisque c'est une grande part oubliée, négligée dans l'histoire de l'art. Et comme je l'ai souvent dit, on réussit maintenant à retrouver soit des traces, soit des artistes. Par exemple, Giulia Lama, une artiste vénitienne du XVIIe siècle, c'est très difficile. Je cherchais, fouillais, je réussis à trouver 3-4 reproductions sur Internet, alors que c'est une grande artiste. Et donc, elle a certainement fait beaucoup plus. Hein. Donc, si vous voulez, c'est toujours. Alors, c'est un enjeu. Alors, moi, je trouve ça assez intéressant, significatif. Et puis voilà. De la même manière, on verra les questions abordées, que ce soit par Velázquez ou par Vermeer, hein, ou par Goya. Ou par Bateau et Chardin sur la représentation du genre féminin avec tous les enjeux qu'il y a derrière, parce que c'est une sorte de part non dite dans l'histoire de l'art et puis qui ressort et qui était très significative des mondes hein, dans lesquels vivent ces artistes. Alors, Velázquez, je sais plus où j'en ai arrivé, mais. Rappelez-vous que le tableau précisément des fileuses, hein, que je présente ici sans géométrie, qui est donc Velázquez, c'est vraiment le plein XVIIe siècle. Pour les repères chronologiques, c'est assez marrant de savoir que Velázquez, Rembrandt, Rubens, Poussin, Descartes, Delatour sont quasiment tous contemporains. Mais même presque à l'année près. Hein. Si on avait fait une photo de le groupe cité à la même école, ils étaient à la même classe quasiment. Hein, parce qu'ils sont nés vers 1594, et ils meurent à peu près tous vers 1660-66, etc. Donc on est vraiment dans une génération d'artistes qui sont, et c'est pas mal parce que d'abord c'est pas n'importe qui, Descartes, etc. Bon, comme philosophe, Velázquez, Poussin, Rembrandt, Vermeer, hein, Rubens aussi, c'est la même génération, Delatour aussi. Donc ça situe un petit peu quand même l'époque. Et rappelez-vous que la grande thématique de cette peinture, c'est la confrontation de deux mondes, le monde des fileuses, l'andalas, hein, et un monde lointain ou à distance, et la question c'est à quelle distance il est, le monde, on va dire, solaire, lumineux, où il y a les filles de la cour ici, qui sont fusionnées dans la tapisserie au point qu'on ne sait pas très bien si elles sont réelles ou dans la tapisserie, et vous avez au premier plan le monde, cette fois-ci, des ouvrières, c'est clairement des ouvrières, tapissières, et avec une déconstruction de tout le travail autour de la laine. La laine brute, hein, le cardage de la laine, alors je ne sais pas si on voit la laine cardée, etc., le filage, la mise en boule, etc., etc. Et puis, ici, voilà, là, elle est en train de carder, elle sert à carder. Et puis, vous avez aussi les différents états du tissu. Hein, la laine sert à tisser, donc vous allez avoir des linges, vous allez avoir le rideau qui dévoile, les robes, etc. Et donc, plusieurs états de la matière, hein, comme une sorte de chantier. Et au bout, vous avez l'objet final, c'est la tapisserie. Parce que décédée sur la visite de la manufacture de tapisserie à Madrid par les filles de la famille royale. Et je vais un peu plus vite parce que je vous avais montré que ce qui était incroyable chez Velázquez, c'est qu'il y avait donc deux mondes, et ça c'est très fréquent chez Velázquez, qui sont connectés, bien que à distance, et qui ont l'un et l'autre à voir. C'est-à-dire qu'elle, les fileuses, ne travaillerait pas si elle n'avait pas un but qui est d'aller jusqu'à la tapisserie, c'est-à-dire jusqu'à peut-être l'œuvre la plus aboutie, qui est la plus artistique. C'est-à-dire que le travail manuel, ici, a une sorte de direction de finalité qui serait l'œuvre d'art lumineuse, aérienne, spirituelle, œuvre de l'esprit. Et vous avez ici deux lumières, la lumière terrestre au premier plan, avec des corps non idéalisés, mais bien physiques, hein, des femmes en train de travailler de leur corps et de leurs mains. Et vous avez ici des corps qui sont beaucoup plus évanescents, fusionnés dans la lumière, sans chair presque, hein, stéréotypés, qui font partie aussi de l'aristocratie, hein, qui est associée au soleil. Donc vous avez la lumière solaire, la lumière terrestre, des corps travaillant et travaillant la matière, et des corps un peu évanescents du côté de l'esprit et de la lumière. Et pourtant, ceux qui sont du côté de l'esprit et de la lumière ne seraient rien sans ceux qui travaillent, et inversement. Ceux qui travaillent n'auraient pas de sens à leur métier si tout d'un coup, il n'y avait pas l'idée d'aller le plus loin possible. Et ce que l'on sait aussi, c'est que la scène représentée par Velázquez là, c'est Athéna transformant Arachné en araignée, puisque c'est le défi de la tapisserie entre les dieux et les humains, hein, puisque Arachné est une jeune humaine, et dans un concours de tapisserie, est défiée par Athéna, va avec Athéna au concours, et Athéna est jalouse, et la condamne à errer sans cesse à l'animalité. Et alors, vous avez aussi la chose... Bonjour. Oui, c'est dur tout ce qu'il y a. Et je viens à peine de commencer. En plus, je fais une petite révision pour replonger un petit peu dans le... Alors, ce qui est remarquable chez Velázquez, outre la composition qui est très très claire en deux temps, c'est qu'il y a un premier plan qui est à portée de main. C'est-à-dire que celles qui travaillent sont compris à portée de main du spectateur. On peut le toucher, on peut rentrer dans leur espace. Tandis que vous avez un univers qui est lointain. Alors, en termes savants, plus tard, on a parlé de diploptie, c'est-à-dire voir en même temps deux choses qui sont éloignées, qui ne sont pas reliées. Un truc tout bête, si vous regardez, vous avez une longue vue, vous avez un œil sur une longue vue et l'œil sur vous, c'est un peu le cas de Velázquez. C'est un peu comme si on avait un œil dans une longue vue et l'autre œil qui regardait le réel. Il y a quelque chose qu'on voit dans l'œil qui a une distance incommensurable au sens strict, on ne sait pas quelle distance c'est, et vous avez quelque chose qu'au premier plan, à portée de main. Et évidemment, c'est deux mondes. Alors, pourquoi j'insiste lourdement là-dessus ? Parce que Velázquez, on est à l'époque de Galilée. On est en plein dans l'époque de Galilée. Plein dans l'histoire aussi, après Copernic, de savoir qu'est-ce qui est au centre du système du cosmos. Hein, pour vous dire, ils n'ont pas d'autre système que le système solaire, mais qu'est-ce qui est au centre de l'univers ? Est-ce que c'est la Terre ou est-ce que c'est le Soleil ? Héliocentrique ou géocentrique ? Et le système héliocentrique et géocentrique, c'est en dispute depuis Copernic héliocentrique, qui va commencer, mais qui a du mal à se faire, et Galilée confesse qu'il est partisan en fait, du système héliocentrique, le Soleil au centre. Mais tout d'un coup, ça détrône la Terre. Ça détrône la Terre qui ne devient qu'une planète qui n'est plus centrale, une planète dans le monde sublunaire, etc., un peu parmi les autres. Hein, donc vous avez tout d'un coup une sorte de figure détrônée. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette place décentrée, hein? Et puis vous avez le monde solaire qui devient peut-être central, hein, mais là aussi presque inaccessible, hein, parce que tout d'un coup, là, vous avez un enjeu en tout cas. Alors, ce que... c'était un petit peu des amusements que je m'étais dit. Enfin, c'est pas que des amusements, c'est sur les schémas. Par contre, celui-là est très intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte aussi, et ça, je vous l'avais déjà dit, mais alors que j'avais déjà cette idée-là très claire sur Velázquez, c'est vendu il y a deux ans, en allant au Prado, en regardant le tableau vraiment sous le nez, je me suis dit, mais elles sont toutes connectées, en fait. Chaque figure, ici, a sa projection dans le monde solaire, et inversement, chaque figure aussi serait une projection du monde céleste. Donc vous avez en plus une approche philosophique entre tout ce qui est le plus proche de l'idée du point de fuite et du centre, hein, une sorte de pureté lointaine, solaire, etc., du côté de l'esprit, et vous avez une sorte de projection sur Terre, comme si nous étions les projections d'idées pures, ou inversement, comme si chacun d'entre nous, on avait une sorte d'avatar spirituel, Alors on retrouve les idées de Platon un petit peu sur les concepts et la réalité, hein, mais vous avez ici quelque chose et qui est absolument, alors là je n'ai pas inventé, elles sont reliées par un point de fuite de façon très très claire, et chacune, alors il y en a une seule qui est avec le contact, c'est elle qui se tourne vers le premier plan. Donc vous voyez, alors après, juste une chose, c'est que vous avez quand même ici un système assez stupéfiant, on a des ronds hein, qui tournent autour du rouet, la première fois qu'on voit quelque chose qui tourne sur un arbre dans une peinture, le mouvement, hein, et l'instant, alors ça c'est... On peut voir aussi une sorte de métaphore aussi de la vie des parcs, hein, qui tisse le fil, qui coupe le fil de la vie, etc., de ces femmes toutes puissantes aussi, hein, qui, quelque part, ont entre leurs mains. Alors, bon, il y a beaucoup de choses évidemment à dire, alors je ne vais pas refaire exactement toute la séance de l'autre fois. Bon, ça c'était d'autres schémas, parce qu'après il y avait d'autres schémas, mais c'était pour une autre chose, c'est la structure du nombre d'or. Alors, le thème d'Arachné, on le retrouve ici, Velasquez l'a déjà fait. Hein. Alors, il se trouve que c'est un Dallas, mais on parle aussi de Palace Athéna. Donc, là, c'est donc le thème d'Arachné, c'est intéressant, hein, qui touche la toile ici, est représenté, vous avez vu, avec une esthétique pas du tout aristocratique. Alors, c'est très important aussi au siècle de Velázquez, on est quand même au XVIIe siècle, à la cour d'Espagne, et l'aristocratie du XVIIe siècle, que ce soit en France ou en Espagne, c'est le roi soleil, le roi de droit divin, c'est un monde à part, ils se marient entre eux, c'est un sang-bleu, et donc, si vous voulez, ils sont totalement déconnectés du monde réel. Vous savez très bien qu'il y a même l'interdiction de travailler pour tous les aristocrates, sinon on déroge complètement. Et donc, on est aussi, il y a une césure réelle, sociologique, symbolique, de la personne du roi. Autre chose, la personne du roi et les personnes royales, hein, on sait très bien qu'il y a eu beaucoup de textes sur ce que c'est le corps du roi, ou le corps même, c'est un corps symbolique. Hein, le roi est mort vivant le roi, c'est qu'elle est sa personne humaine, compte moins que sa fonction symbolique. Et là, on est dans une idée que, y compris le roi et les aristocrates, ont une sorte de fonction symbolique, peu importe à la limite qui ils sont et où ils sont. Ils n'ont pas forcément besoin d'être incarnés. Alors que tout ce qui est profane, artisans, travailleurs, avocats, tiers d'État, eux sont dans le monde réel, travaillent de leurs mains, transforment le monde, etc. Et sont dans un monde réel, et dans le temps et dans l'espace. Alors que tout ce qui est aristocratique est dans une autre réalité. Alors, on voit ici que Arachné est ici représentée ben, comme une jeune femme, avec un voile transparent, avec une certaine sensualité, y compris la coiffure. Elle est même un peu désordonnée, et devant une toile blanche, une chose aussi qui n'est pas inintéressante. Alors le travail de Velázquez aussi, son travail lui-même comme peintre, c'est quelqu'un qui aussi, on le verra dans d'autres peintures, il va mettre en scène aussi le travail de sa main, le geste. Hein, c'est pas un hasard si la fascination de Velázquez est pour les Vénitiens, notamment pour Titien, le peintre italien avec Tintoret, le peintre vénitien qui les premiers ont peut-être laissé la trace de leur geste et de leur peinture, un effet de matière, rappelez-vous, Titien avait vu ça avec Tintoret aussi. Donc vous avez la présence d'une réalité physique de la matière et de la peinture et de la toile. Quand on parle de Velázquez et de Titien, c'est pas un détail, hein, c'est que même Velázquez est chargé par le roi d'Espagne d'aller en Italie acheter les peintures de Titien et Velázquez. Une de ses missions, il va aller deux fois en Italie, à Venise et puis ensuite à Naples hein, et à Rome. Pendant, quand ils font voyage, c'est pas pour trois jours, hein, c'est pas Vueling etc. Et Airbnb, c'est longtemps, et il reste longtemps, et il va choisir et ramener des peintures vénitiennes pour le Prado. Le lien de la culture espagnole avec Venise est aussi passé avant Velázquez par Greco. Greco était passé par Venise, par Titien et Tintoret, et Greco aussi, c'est un artiste qui laisse la trace de son geste. Donc vous avez une dimension physique de la peinture chez Velázquez, qui est repérable par exemple ici, hein, dans le drapé, dans le tissu, etc., dans le geste pictural, et on le verra dans d'autres peintures. Donc c'est une trace de la matière, de la transformation de la matière. C'est pour ça que dans les fileuses, il y a un enjeu qui n'est pas du tout anecdotique. Alors, voilà. Alors, ça je vous l'avais montré, je ne sais plus, je vous ai montré. Le couronnement de la Vierge et le porteur d'eau. Bon, j'ai oublié ton message. Alors regardez, le couronnement de la Vierge de Velázquez et le porteur d'eau. Donc, On est effectivement dans deux mondes totalement séparés, un monde clairement terrestre, au premier plan, un personnage du peuple, qui est effectivement, tient dans sa main une boule de terre, une sorte de contenant de terre, et puis qui est usé, qui a un physique effectivement réaliste, qui est dans la construction, qui a des rides, qui a un vêtement âpre, opaque, hein, on n'est pas du tout dans la brillance, couleur de terre, qui tient dans la main ici encore un autre vase de terre, et qui est dans l'ombre et la pénombre. C'est-à-dire qu'au premier plan, on est dans la terre, hein, vraiment très grand, y compris la structure pyramidale du bas. Hein, on est vraiment la pyramide, très clairement, vers le bas. Et alors ça, c'est le porteur d'eau de Séville. Hein. Et vous avez ici le couronnement de la Vierge, où là, au contraire, on a un triangle vers le bas. Vous avez un domaine solaire. Le soleil est clairement associé à l'Esprit Saint, à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont là, plus Marie, avec une pointe vers le bas. Alors là, on est au-dessus des nuages, on est tout d'un coup au-dessus du monde sublunaire et sublunaire, et vous avez une lumière solaire, des couleurs vives, des couleurs de bleu, de rouge, de jaune, hein, du blanc, au-dessus du nuage, dans l'air, associé au céleste. Alors là, ça ne vous invente pas, c'est vraiment téléphoné, surligné, stabilo, etc. Et vous avez ici des personnages qui sont idéalisés, évidemment, qui sont divins, quand même. Père, Marie, etc. Et puis la lumière solaire, qui traverse le corps de Marie, plus la forme d'un cœur, hein, avec le bleu et le rouge, hein, son oxydèse, son oxygène, ils ne connaissent pas forcément, mais c'est plus de forme de cœur, et Marie désigne aussi son cœur. Donc, dans la vie, dans l'esprit, dans le cœur, dans quelque chose d'essentiel. Donc, vous avez deux mondes qui ont l'air totalement séparés. Pourtant, pourtant les deux traitent du même sujet. Attendez. Voilà. Les deux traitent du même sujet, on peut les montrer aussi comme ça. Ou comme ça. C'est que la limite. Alors, c'est pas Velasquez, c'est moi qui l'ai fait. Mais vous voyez, je ne rentre pas. C'est vraiment très clairement symétrique. Et là, on retrouve cette idée de deux mondes, comme il y avait dans les philosophes. C'est clair. Avec l'idée aussi que dans les deux, il y a Marie. Dans les deux, il y a Marie, parce qu'en fait, Marie, c'est la seule mortelle, mais divine. Elle est à la fois traversée par la lumière, mais elle meurt, elle porte le Fils de Dieu, Jésus, etc. Donc, elle a montré toute l'idée. Donc, elle est quand même accueillie et intégrée. Mais elle est quand même, ses pieds touchent les nuages, c'est ce qu'on devait l'appeler. Elle est mortelle, elle a un corps, effectivement, physique. Elle montre la terre, d'ailleurs, d'une de ses mains, et son cœur d'ici, donc quelque part. Elle est en relation avec la terre, même ne serait-ce que par son histoire, même si elle est accueillie au ciel, dans la tradition chrétienne.
Excusez-moi, la main, elle est où, là? C'est la main qui montre.
Là, il y a une main là, et une main là.
Elle montre le cœur.
Et il y a une main qui est sur le cœur, et l'autre qui montre la terre. Non?
Si. Je pense
que... Enfin, la terre. Le bas. C'est pas le cœur, ça?
Si.
Si.
Vous
êtes couleur là où ils sont pour ce seuil. Et alors, ces jeux de mains, justement, dévoilent aussi quelque chose qui sort du triangle ici, c'est que ce vasque de terre contient de l'eau. Elle est aride, mais elle contient de l'eau. Et dans la tradition chrétienne, il est dit, quand le culte de Marie a été réhabilité, a été construit, c'est une construction, hein, au cours des siècles, le culte de Marie dit que Marie est comme le nuage qui rafraîchit l'aridité de la terre. Elle amène la vie, en fait. Sinon, sans eau, la terre est sèche. Il est stérile. Et donc, la terre, ici, qui contient l'eau, elle est ensuite donnée dans un vase transparent, et qui est ouvert vers le ciel et vers la lumière. Et donc vous avez aussi le passage de relais, qui va passer de la terre ici, elle va passer au vase transparent. Elle va passer d'une vie en puissance à l'intérieur de la terre, qui va ensuite passer dans les côtés de la lumière et du vase transparent. Or, c'est une métaphore aussi de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est l'Ancien du Nouveau Testament, il s'agit de passer d'un monde ancien à un monde nouveau, et personne de Jésus de la tradition chrétienne, c'est celui qui fait le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Et Marie, c'est la charnière essentielle qui permet ce passage entre la tradition, elle est fille, elle est descendante de Salomon, David, etc. La généalogie de Marie est importante, donc quelque part, c'est l'Ancien Testament, et d'un coup, bim, elle casse d'ailleurs cette généalogie, c'est la seule dans la Bible, avec la Genèse, c'est que des hommes, et bim, Marie qui arrive, et ça change tout. Et vous avez cette espèce de rupture dans la tradition même biblique et on arrive dans un nouveau monde. Hein, tout d'un coup, elle révèle quelque chose. Alors, cette idée aussi de passer de la terre à la lumière, ici, très clair, avec le vase aussi qui sort du tronc, comme ici, donc lui va vers le haut et elle va vers le bas. Alors, pourquoi je peux me permettre aussi de faire ce qui pourrait apparaître comme une surinterprétation, c'est qu'en fait, j'ai oublié son prénom, je crois que c'est Sébastien de Pacheco, qui était le beau-père de Velázquez, était un spécialiste des allégories, justement, réelles. Dans la tradition chrétienne, il y a toujours eu l'idée d'utiliser des exemples, même dans l'Évangile, ceux qui connaissent, les paraboles de Jésus, c'est toujours des exemples très, très concrets, pour aller vers des images divines, des images religieuses, le principe des paraboles. Dans la tradition chrétienne, les chapiteaux sont bourrés de ça, le moulin mystique à Vézelay, si vous en souvenez, l'idée du passage, l'idée du berger, tout ça, la tradition chrétienne est bourrée de ça. Et Pacheco, en Espagne, était un des spécialistes, justement, des paraboles et des images qui pouvaient parler à tout le monde, qui avaient l'air, comme ça, d'être sortis du quotidien, mais qu'on pouvait interpréter vers des lectures religieuses ou symboliques. Parce que, vous voyez, c'est pas du tout un hasard non plus. Alors, il y a une dimension religieuse chez Velázquez, on le voit, qui est associée à une dimension cosmologique, le soleil et la terre, l'Ancien et le Nouveau Testament, la terre, le ciel, l'humain, le divin, le proche, le lointain, le corps et l'esprit, le travail manuel, les matériaux, le sol, on désigne le sol ou on désigne le ciel, et y compris un registre de couleurs, hein, puisque là on voit très clairement dissocier ces deux couleurs. Alors on le retrouve dans cette peinture, alors juste un truc, bon, je me suis amusé pour voir des structures comme du nombre d'or, hein, on trouve très c'est clairement là-dedans, mais bon. Alors, le nombre d'or permet de relier tout aussi. Notamment, justement, dans là. Alors, cette peinture a été rénovée pendant longtemps, c'est devenu beaucoup plus sombre, mais maintenant, on est à peu près sûr qu'elle était comme ça. Et vous retrouvez la même thématique, après je zoome,
ouais. Comment
ça, c'est Jésus chez Marthe et Marie. Jésus, c'est lui. Marthe, alors j'oublie toujours, Marthe est celle qui travaille, il y en a qui ont une bonne éducation religieuse ici. Et Marie, ce sont deux sœurs. Alors, pour la petite sœur, c'est les deux sœurs de Lazare que Jésus avait ressuscité. Alors bon, on fait un petit cours de cathérapie de ce que je m'en souviens. Donc Jésus a ressuscité Lazare qui était mort, et ses deux sœurs, Marthe et Marie, qui étaient à côté, et donc elles voient un culte de Jésus, c'est un des premiers miracles de Jésus, etc. Et elles apprennent que Jésus ensuite vient les voir. Alors là, super, elles sont contentes. Et la tradition dit qu'effectivement, elles ont deux attitudes. Il y en a une qui dit, super, Jésus, on va l'écouter. Et l'autre qui dit, ouais, il vient recevoir. Et donc, vous avez une qui est du côté, on va dire, du corps, de la nourriture, hein, de l'accueil, de la maison, du concret, hein, des moments d'incarnation. Jésus, là, comme un être humain. Et l'autre, elle s'en fout un peu de la dimension humaine de Jésus, ce qui intéresse surtout la parole, l'esprit, etc. Et donc, très clairement, mais la sketch, donc, les deux, une est assise dans la lumière, en train de l'écouter. Lui, il est sur un fond noir absolu. Là, on peut se souvenir aussi des peintres du clair-obscur pour qui le noir n'est pas forcément le néant, mais ça peut être aussi l'infini, c'est un monde qui est encore ailleurs. Vous avez ici quand même de lui une lumière dorée, et vous avez ici l'autre sœur qui, elle, travaille. Elle travaille au premier plan, elle a l'air un petit peu ignorée, comme si ici tout le monde se fichait d'elle, mais pourtant, les ustensiles qu'elle travaille, le pot de terre, les œufs et les poissons, sont aussi des symboles chrétiens. On est quand même dans l'idée, hein, de quelque chose qui, dans le quotidien, peut ramener à la religion, et y compris le fait de transformer une nourriture brute en une nourriture subtile, c'est quelque chose qu'on a trouvé depuis toujours dans la tradition chrétienne, par exemple la parabole du moulin, qui transforme le grain en farine, le moulin mystique à Vézelay transforme le grain brut, qui est indigeste, en quelque chose de fluide, et c'est une métaphore chez les chrétiens, cette nourriture, effectivement, de la chose brute transformée en chose fluide et universelle, le christianisme se voit comme ça. Transformer une parole brute de la Bible en une parole universelle. Tout le monde peut comprendre. Simplifié. D'ailleurs, le repas, dans la tradition chrétienne, c'est important à la scène. Si vous voulez, vous avez toute une sorte de symbolique du repas, de la transformation, de la nourriture et l'universalité. Ce qui fait que vous avez. Les chrétiens sont toujours. C'est super, parce qu'ils ont toujours eu les deux. Ils ont toujours joué sur les deux tableaux. Hein, donc, ils sont gagnants à tous les coups. Ils embrassent toute la tension, on va dire, entre le proche et le lointain, le corps et l'esprit, la matière, etc., et la parole, etc. Par contre, ce que Velázquez fait de façon très subtile, c'est qu'il n'y a aucun lien entre les deux. On ne sait pas si c'est un miroir, une fenêtre, ou un tableau dans le tableau. Mais vraisemblablement une fenêtre, mais c'est une fenêtre, il y a la porte. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un autre espace. Il y a deux espaces, deux réalités. Deux réalités dans une qui se trouve au premier plan. Un premier plan proche de nous qui nous regarde un peu désolé aussi. Elle est dans le même espace que nous. Et donc vous avez aussi quelque chose qui est très subtil chez Velázquez, c'est la façon dont il implique le spectateur dans un premier plan. Alors, et vous avez, il montre aussi que la peinture, c'est aussi quelque chose qui semble être dans notre univers ou complètement ailleurs. Et ça, c'est aussi, bon, pour ça, Velázquez, c'est vraiment quelqu'un de très fort. Parce que, si vous voulez, la peinture, je l'ai souvent dit, c'est à la fois un mur, parce que c'est une surface qui est bien là, et ça peut être vu aussi comme une fenêtre, c'est un lointain. Et puis, vous avez certains artistes qui vont même faire croire que c'est même pas un mur, c'est quelque chose qui est devant nous, qui n'est même pas dans la peinture, dans le Caravage. Vous voyez, Velázquez, on a presque l'impression qu'ils sont presque sortis du mur, pour être dans le même espace que nous. Donc, vous avez cette idée du avant-plan, plan, premier plan, arrière-plan, etc., qui sont très forts, et au centre, il n'y a rien. Au centre, il n'y a rien, parce qu'en fait, c'est comme si Velázquez, comme Galilée, et comme beaucoup d'autres, doutaient et se disaient, mais en fait, qu'est-ce qui est au centre, le soleil ou la terre? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Et Velázquez, c'est là où c'est fondamental, Velázquez dit, il casse la hiérarchie. Il dit, il n'y a pas un truc au-dessus de l'autre, il n'y a pas un truc mieux que l'autre, il y a deux réalités qui sont toujours liées, et l'une sans l'autre ne peut pas fonctionner, mais il n'y a plus de centre. Alors, c'est à la même époque que Blaise Pascal dit l'univers c'est un monde, une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. C'est que tout d'un coup vous avez un questionnement sur les hiérarchies, sur le cosmos et sur l'espace réel, physique, y compris sur les hiérarchies symboliques. Et ça c'est vraiment clair, cette espèce de doute. Alors pourquoi je me permets aussi de dire ça? Parce que Velázquez est obsédé par cette question. Alors ça je vous ai montré ça. Ça c'est le système Ptoléméen, qui a vécu jusqu'au 16e siècle, 17e siècle, la Terre au centre avec les planètes, et puis c'était un monde parfaitement ordonné. Il y avait 7 corps célestes, venus comme 7 jours de la semaine, comme tout ce qu'on veut, 7 péchés capitaux, une sorte de comme 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, comme 7 notes de musique, donc vous avez une sorte de monde parfaitement centré, céleste, concentré. Au-dessus, vous aviez la sphère du zodiaque et des étoiles fixes, qui étaient venues par des anges. Le monde sublunaire, la Terre, la Lune et le monde sublunaire, c'est une sorte de réalité. Et puis, un monde absolument ordonné, parfait et choisi. Alors, la Terre est évidemment dans la Bible, mais c'est aussi la Terre a été choisie par Dieu pour envoyer son fils. Donc, ce n'était pas n'importe quoi. Il n'est pas envoyé sur n'importe quelle planète. Si vous détrônez la Terre, d'un coup, c'est un bel édifice qui s'écroule, on sait très bien. Alors, voilà le système copernicien, justement, très complexe, avec toujours quand même l'idée qu'on est dans un monde quand même à peu près clos, avec une sphère d'étoiles fixes et sphère du zodiaque. Certains astronomes et philosophes au fin 16e siècle commencent déjà à se poser des questions, hein, Giordano Bruno qui est brûlé à Rome, pour avoir osé dire que en fait, les étoiles étaient sans doute plus loin. Et donc ce n'était pas une sphère d'étoiles fixes, c'est que c'était peut-être infini. Et donc, vous avez donc des questionnements réels sur l'espace, mais qui sont des enjeux terribles. Et en peinture, ça va se poser, parce que le monde finit, le monde pas fini, la hiérarchie ou pas, la centralité ou pas, de quoi est fait l'espace? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? Est-ce qu'il est infini? Est-ce qu'il est parfait? Vous avez donc des questions qui se posent d'un point de vue théologique, astronomique, philosophique et pictural autour de l'espace. Et c'est vraiment clair. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça aussi? Parce que ça, je vous l'avais déjà dit, mais je le redis. Alors ça, c'est le système de Kepler, de Tycho Brahe, hein, mais avec déjà une version géocentrique, mais qui prend en compte les différents circuits des étoiles et des planètes. Donc, parce qu'il y a plein de systèmes de représentation compliqués. Donc, je suis à peine capable de reconnaître Vénus et Mars dans le ciel, je trouve déjà hallucinant. Depuis des siècles, ils savaient repérer les trajectoires des planètes, donc vous voyez, c'est des questions qui se posent de façon vraiment récurrente. Et puis Velázquez, quand il est allé en Italie au début choisir des peintures à Venise, son dernier voyage, je crois vers 1630, je ne sais pas exactement, et il rencontre à Naples un certain Médicis, un jeune Médicis, hein, qui va l'introduire auprès du prince de Naples pour acheter des peintures, etc. Et ce jeune Médicis était un des élèves de Galilée. Et il est vraisemblable, il y a un texte, comment s'appelle la femme qui a écrit ce texte, il n'y a pas très longtemps, dans les archives, qui dit que très vraisemblablement, ce jeune Médicis a présenté Galilée à Velázquez. Velázquez, attention, c'était l'ami du roi d'Espagne, c'est quand même une figure absolument fondamentale. L'Espagne et Naples avaient des rapports, moi-même, c'était pas plus ou moins allié ou figuré, je sais pas très bien. Tu vois-t-il que c'était quelques très peu d'années avant le procès de Galilée. Ça faisait longtemps que Galilée était en bisbille, en discussion avec la hiérarchie catholique, etc. Mais il est très vraisemblable qu'ils se soient rencontrés. Parce que vous voyez, le contact est établi physiquement. Alors,
pour ça, je vais passer un petit peu sur la peinture de Velázquez et Jacob recevant la tunique de Joseph. Et ça, je vais pas. Voilà, je voulais vous montrer. Ça, c'est Apollon chez Vulcain. Apollon dans les forges de Vulcain. Et là, vous avez de façon très très claire, dans toute la partie gauche, si on divise le tableau en deux, alors je crois que je ne suis plus obligé de le faire. Oui, bon, ça c'est un peu tout le truc. C'était juste pour... vous avez Apollon et Vulcain. Le dieu du soleil et le dieu de la terre. En fait. Le dieu même souterrain, Vulcain voltant, la forge, etc. Et vous avez Apollon, dieu solaire. Or, les deux ici sont en conflit, enfin pas en conflit, mais il y a une sorte de histoire tragique derrière ça, puisque vous avez aussi une histoire sociologique et une histoire d'esthétique. C'est là aussi où c'est intéressant avec Velázquez. Puisque vous avez vu, chez Velázquez, il y a toujours une certaine esthétique du corps, une esthétique du travail, une esthétique du monde réel, une esthétique y compris sociologique des ouvriers, des artisans, des paysans, des fileuses, des gens, des cuisinières, qui sont des gens qui travaillent, hein, qui sont des gens de tous les jours. Et puis vous avez une esthétique un peu aérienne, céleste, il y a, que Velázquez connaît très bien, il sort de la Renaissance. On est au XVIIe siècle, mais si vous voulez, tout le XVIe siècle, Velázquez, il va en Italie, il voit tous les peintres de la Renaissance, hein, parce que c'est pas tellement en Espagne qu'il y en a. Donc tout le modèle idéal, il le connaît. L'idée d'idéaliser les figures. Donc si vous voulez, quand il sait très bien de quoi il parle, quand il fait un choix délibéré d'un certain réalisme physique et des postures et des corps, et au contraire, à une référence à une certaine idéalisation des corps hérités de la Renaissance. Or là, vous avez l'idée aussi que Vulcain est le seul dieu qui soit considéré comme laid, boiteux et obligé de travailler. C'est le seul dieu qui est précipité sur la terre, parce qu'il est considéré comme il n'est pas beau, je ne sais plus très bien, à chaque fois je me lance une histoire. En tombant sur terre, il se blesse sur la jambe, il devient boiteux, et en plus il est obligé de travailler, le seul obligé de subvenir à ses besoins parmi tous les dieux. Les autres, ils ne fichent rien. Lui, il travaille. Et ensuite, il travaille avec le feu des enfers. Enfin, pas le feu des enfers, le feu des volcans. Volcans, vulcains, etc. Donc, vous avez cette idée aussi incroyable. Il est associé à la laideur, au travail et au feu souterrain. Donc, c'est une lumière terrestre, souterraine, rare et focalisée au centre. Beaucoup, feu, etc. Donc, alors que Apollon, c'est le dieu solaire, le dieu de l'esprit, le dieu de l'art, le dieu des lyres, le dieu agir. On l'avait vu avec Arsénon et Martias. Donc vous avez ici quelque chose qui est une opposition très très claire, que Velázquez montre de façon plus que claire, Apollon dieu soleil, et vous avez à la place du sexe coupé, hein, le morceau rougeoyant, etc., parce que Apollon vient dire à Vulcain que la beauté le traîne, Aphrodite le trompe avec Mars, ou Arès, hein, le dieu de la guerre, des combats. Et donc Vulcain, quelque part, est détrôné. Et perd sa force, perd sa puissance, etc. Et alors, est-ce que c'est l'idée que le soleil détrône la terre, hein, dans cette culture-là, puisque justement, vous avez cette idée, un dieu de la terre, un dieu du soleil, et vous avez cette idée-là, avec un effet de surprise. Hein, et là, en plus, il est en train de forger les armes pour Mars. Non seulement il est en train de bosser, pendant qu'il fait les armes pour Mars, Mars est avec Aphrodite, la beauté. Vous avez aussi cette idée que la terre perd le rapport à la beauté. Donc, c'est un très vieux mythe. Hein, donc, après, on peut l'interpréter comme tous les mythes. Il y a plein de lectures possibles. Mais Velázquez, ça connecte avec son monde de dualité, d'opposition et en même temps de relations fortes, hein, de deux univers qui se confrontent, qui sont conjoints, parfois complices, parfois complémentaires, parfois rivaux. Et ça, c'est vraiment clair à chaque fois. Avec, vous avez vu aussi, à droite, côté terre, des couleurs terre, à gauche, du rouge, du jaune, du bleu, des couleurs primaires, des couleurs beaucoup plus vives. Alors, c'est quand même pas pop, mais pas loin. Hein, pas loin. Avec... Alors, par contre, il n'est pas très flatteur sur Apollon, qui a l'air un petit peu bené, un petit peu gambin, un peu flambé. Il y a quelque chose du côté de la chaise, on sent une sorte de complicité,
avec ses corps qui étaient un peu abîmés, etc., et qui sont plus vrais. Il y a un qui a l'air un petit peu abruti, mais sympa, alors que, bon, vous avez Vulcain, bah, il est complètement il est naturel, et il a une musculature naturelle. Bon, ça, je passe. Même topo, encore un dieu chez les Vignerons, Bacchus chez les Vignerons. Bacchus chez les Vignerons, alors Bacchus, même si c'est un dieu terrestre, du corps, de la fête, c'est quand même un dieu. Et on le retrouve chez les Vignerons, à gauche, Bacchus et les satyres, etc. Et à droite, les Vignerons. Exactement encore la même problématique. La même problématique, ceux qui travaillent la terre, ceux qui travaillent le raisin, ceux qui travaillent la vie, et de l'autre, le dieu qui donne sens aussi à leur travail. Parce que si vous voulez, travailler les raisins, c'est bien aussi de travailler pour un fruit qui est noble et qui a tout d'un coup une sorte de mythe et de culture. Donc si vous voulez, vous avez aussi quelque chose qu'on ferait bien de retrouver dans nos cultures occidentales, c'est donner un sens un peu au travail que tous les gens font. Hein. C'est une finalité aussi, une représentation. L'idée qu'il y ait une représentation positive du travail de chacun, c'est quelque chose aussi qui est très important dans la chaîne du travail, même dans la chaîne sociale, qui relie les personnes aux autres, etc. Ça, c'est, on va le dire à certains de nos dirigeants. Et vous avez aussi l'idée que... Vous avez aussi l'idée que Bacchus lui-même, bah, il vient couronner ceux qui produisent le vin, ceux qui travaillent. Alors effectivement, alors là, Velázquez va prendre des modèles chez des paysans, chez des vignerons. Ouais. Ils ont le teint cuivré, rouge, certains ont peut-être un peu trop bu. Ils sont rouges, ils sont contents. Comment ? Ils sont très contents, justement. Mais si vous regardez bien, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas l'un au-dessus de l'autre. Et au centre, il n'y a rien, en fait. Ils sont équilibrés. Vous avez toujours l'idée de ne pas hiérarchie. Parce que vous avez, c'est pour ça qu'on parle chez Velázquez d'un classicisme critique, c'est qu'il va harmoniser des forces qui sont effectivement, qui peuvent sembler très éloignées, mais il montre qu'elles peuvent fonctionner ensemble. Alors, vous allez voir que ça va très loin, y compris dans sa vie personnelle. Et puis alors, c'est drôle quand même, la façon dont on regarde les peintures, parce que c'est comme Velázquez, ça fait des années que ça m'intéresse, mais c'est un jour, en faisant cours aux élèves, j'ai dit, ah puis regardez, là vous avez les flacons, et qu'est-ce qu'on voit comme flacons? Vous avez deux flacons, un en verre et un en verre. Là encore. Vous avez côté Apollon, vous avez un verre transparent, fragile peut-être mais lumineux, et côté vigneron, vous avez un en terre, effectivement. Et là, bon, là quand même, ça fait quand même des éléments dans la preuve. Enfin, c'est pas une preuve, mais ça fait des arguments en tout cas. Et vous voyez, y compris même la tunique, hein, ici du personnage, est proche du porteur d'eau. On est là très clairement dans les couleurs terre. Et là encore, une lumière différente hein, d'Apollon, avec un corps un peu androgyne. Vous voyez, si la différence de traitement des corps, c'est plus qu'évident. Alors, il est un petit peu grassouillé, mais il a une peau un peu androgyne, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, justement. Mm. Alors, au 19e siècle, il y a une chanson, ils ont les mains blanches, les mains maquillées, par le crime souillé. Vous connaissez cette histoire-là ? Mm. Sur la commune de Paris, les communards, pour repérer les communards, les versaliers, ils leur demandaient d'entrer leurs mains. Mm. Et s'ils avaient des mains de travailleurs, certains étaient exécutés comme ça, et s'ils avaient des mains blanches, des mains. Et donc la chanson, c'est « Ils ont les mains blanches, les mains maquillées, ils ont les mains blanches par le crime souillé. » C'est une chanson en communarde. Mais ça dure longtemps, cette histoire-là. Si vous voulez, du travail. Le travail, hein, classe laborieuse, classe dangereuse, etc. Mais là, vous avez une approche, justement, qui est très différente. Alors pourquoi ? Et c'est là où on arrive à une question centrale pour Velázquez lui-même. Alors, avant d'aborder la question de Velázquez, par exemple, Velázquez est très intelligent. C'est même pour montrer Aphrodite, montrer une déesse, elle est toute seule. Et bien il en présente deux représentations. Un miroir et le corps réel. Le corps réel, quelque part, il est dans la lumière, etc. Mais il est au premier plan, donc elle a à chaque fois les deux. Mais on ne voit pas son visage. Et dans le miroir, elle est peut-être à distance, mais elle a un visage éclairé par une lumière plus naturelle. Et un visage qui n'a pas l'air d'être spécialement idéalisant d'une jeune femme, etc. Vous avez quelque chose d'assez, justement, une sorte de dualité, parce que un dieu ou une déesse doit avoir ces deux qualités. Il ne peut pas être complètement abstrait. Il faut qu'il ait cette espèce de part, justement, humaine, fragile ou terrestre. Surtout les dieux grecs, même le dieu des chrétiens, Jésus doit aussi avoir cette double nature, céleste et divine et terrestre, etc. Alors l'idée du dévoilement, hein, l'idée du corps, évidemment, d'incarnation, alors ça c'est au Louvre, pas au Louvre, à Londres. Alors le voilà, Velázquez se peignant dans le fameux tableau Léménine. Voilà, alors, comme je vous disais, il montre sa palette, il se montre en train de peindre. Exactement comme il a montré les autres artisans. Velázquez se considère comme un artisan, c'est quelqu'un qui patouille la matière, il transforme de la boue colorée en lumière, en image. Donc vous avez quelque chose. Et ensuite, dans le tableau Léménine, alors, aussi regardez sa manière de peindre. On n'est pas du tout dans le détail, flamand, etc. On est dans la touche, dans le geste. Donc non seulement il montre sa peinture sur la palette, il montre l'outil, le pinceau, mais il montre aussi la peinture, même quand elle devient lumière. Et le corps du peintre, ben, la peinture, elle ne se passe par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui agite le pinceau sur la toile, etc. Donc vous avez là quelque chose qui est très beau, flou, un peu désabusé, mais vous savez très bien que c'est un détail de ce tableau, où il montre l'envers d'une toile aussi. La toile, c'est aussi un châssis tendu sur du bois. C'est un gros truc cracra, une vieille toile de lin tendue, c'est brut. C'est même. Et donc, sur une toile, il montre l'envers de la toile. Alors, on a vu Rembrandt l'avait fait, il est seul, Poussin aussi va aborder ces questions-là. C'est une problématique que pas mal d'artistes montrent. Et puis, vous avez effectivement dans le tableau, donc c'était Lénine, une représentation alors, qui est très intéressante, parce que tout est encore dédoublé. Alors, tout est dédoublé. Mais aussi, alors ça je vais vous le montrer de façon plus précise, parce que Velázquez était dans une situation très intéressante avec le roi d'Espagne, Philippe IV, qu'il a fréquenté quasiment toute sa vie. C'est-à-dire que non seulement il a fréquenté, il a travaillé pour la cour d'Espagne, mais ils sont devenus très amis, très très proches, complices sur un tas de domaines, ils avaient quasiment la même génération, et Velázquez connaissait donc le roi comme personne, un individu. Maintenant c'était le roi. Velázquez était peintre du roi. Le roi avait besoin de Velázquez pour être représenté. Le roi sans image, c'est aussi quelque chose qui n'est pas possible. Le roi a besoin de son image, de son icône, sur les médailles, sur les bronzes, dans les gravures, dans les peintures. Il y a force toujours une représentation du roi, c'est absolument essentiel, même depuis les princes, depuis César, depuis la représentation du chef sur les monnaies, sur la valeur. Donc ça, c'est très important la question du portrait. Donc le roi a besoin du peintre, et le peintre, sans la cour, il ne peut pas vivre. Donc vous avez quelque chose qui est tout bête, c'est qu'ils ont besoin l'un de l'autre. D'une certaine manière, comme ils pensaient que le soleil avait besoin de la terre, c'est parce qu'ils font. Non, c'est que le soleil n'avait besoin de la terre. Enfin, la terre a besoin du soleil, et le soleil aurait eu besoin de la terre, théoriquement. Et là, vous avez tout en double, et ils étaient amis, hein, donc Velázquez et le roi. Et là, regardez le système. Ah, pourquoi ça marche pas en image ? Je vais le zoom, là. Mais non. Ah. Oh. Si je faisais dévoiler ça, ça va pas. Hein. C'était mon buzz. Enfin, mon teasing. Attendez. Et vous connaissez, moi, mais quand même. Vous savez qu'au centre, justement, il y a le roi et la reine. Mais on est encore exactement comme dans les fileuses, on est encore comme partout, vous avez deux lumières, deux univers. Un très lointain, ailleurs, on ne sait pas où ils sont, dans une lumière, floue, au loin, mais bien présent, quasiment présent. Pas au centre, mais de façon centrale, dans le tableau. Et dans un miroir, et là, vous avez effectivement Velázquez, le peintre, ici. Lui qui est au premier plan, devant nous, etc. Dans le même espace.
Ça pose un problème si on voit un immense corps pour le peintre et des petits corps.
Alors, justement, c'est ça la question, c'est que le roi n'a pas besoin. Le problème, justement, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Mais le roi n'a pas besoin d'être incarné de la même manière qu'un individu profane. Le roi et la reine sont d'une autre réalité, une réalité humaine. Ils peuvent être loin, s'ils sont ailleurs, et après, ils sont partout. C'est-à-dire que le roi et la reine sont, ils n'ont pas besoin d'être dans un espace réel puisqu'ils ont une valeur symbolique. Et donc, à la limite, c'est comme le soleil ou la lune. Si on se déplace sur Terre, on continue à avoir au creux un espace. Hein, on se dit, tiens, mais la lune me suit, ou le soleil me suit, etc. Donc, on se déplace sur Terre. Donc, cette idée qu'ils sont ailleurs. Ils sont plus loin, mais ils sont peut-être plus importants, mais ils peuvent être petits. Ils ne sont pas dans la même logique de représentation. Et Velázquez pose même la question encore plus loin, parce que vous connaissez l'essai de paradoxe, c'est qu'il y a plein de gens qui ont essayé de faire vraiment une maquette de la situation, c'est impossible. C'est impossible, parce que Velázquez, pour se regarder, qu'est-ce qu'il est en train de peindre ? On ne sait pas. S'il peint le roi et la reine sont devant lui, hein, donc effectivement, alors comment il fait pour se peindre lui, dans ce cas-là ? Donc vous avez plein de choses comme ça. Et donc, vous avez, est-ce que le roi et la reine, c'est le miroir et le reflet de ce qu'on voit dans le tableau. Mais vu l'oblique du tableau, c'est pas possible. Donc vous avez en fait une sorte de mécanique impossible, Hein, quelque chose qui est totalement impossible. Et qui, par contre, si on regarde cette idée-là, justement, c'est une sorte de machine impossible, où à la limite, l'emplacement le plus important, c'est celui qu'on ne réussit pas à situer. C'est le roi et la reine. Qui sont ailleurs et qu'on reconnaît comme des icônes au sens. Ils n'ont pas besoin d'être. Leurs traits n'ont pas besoin d'être. Il suffit qu'on les reconnaisse comme des. Justement, comme un signe. Hein, y compris parce qu'il y a ceux qui ont la lumière la plus abstraite. Après, vous avez aussi une gradation où tout va par deux, puisque vous avez deux Velasquez. Velasquez qui est au premier plan, et le Velasquez qui va aller du côté de la lumière absolue, un Velasquez du côté des matières, du l'acte, et un Velasquez ici qui est du côté de la lumière, comme s'il allait du côté de là où sont le roi et la reine. Alors je dis deux Velasquez, parce qu'effectivement, ça c'est un pièce qui s'appelle aussi Velasquez, c'est Chambellan. Et effectivement, donc, Velasquez, le peintre, s'est amusé quelque part à présenter un dédoublement de la pièce, un du côté de la matière, de la peinture, et l'autre qui serait du côté du secret, de la lumière pure, parce qu'on ne sait pas que de la pièce qui s'ouvre, et il tire un rideau comme si c'était un coup une sorte de secret qui se dévoilait. Et puis tout va par deux, les deux ménines, les deux petites femmes ici, le couple ici, et deux petites choses, un chien et un enfant, qui sont un peu, à peu près associés comme des êtres un peu inférieurs. Je dis ça, il y a des textes entiers sur l'enfant au XVIIe siècle, le statut de l'enfant, la façon dont l'enfant se construit au cours des siècles. Hein, être enfant, c'était être dans un état très très. Je crois que vous l'avez déjà dit, mais au XVIIe siècle, on considérait même que Jésus enfant, c'est la pire épreuve qu'il ait subie, c'était même pas la croix, d'avoir été enfant. Parce qu'enfant, c'est vraiment l'état le plus lamentable qui existe pour un être humain. Donc, si vous voulez, c'est l'être d'abord le plus fragile, on peut mourir, on est dépendant, on est impuissant, on n'a pas le droit à la parole. Et une femme, c'est ça que ça veut dire. C'est trivial, dans l'idée, il a fallu changer les couches de Jésus, hein, mais je l'ai. Ben, c'est vrai. Vous avez quelque chose qui est vraiment l'enfant, il a une sorte de trivialité terrible. Donc c'est un être. Alors, en même temps, il faut l'élever, et puis les enfants royaux, quand même, ils sont déjà porteurs, théoriquement, il faut les préserver. Alors, c'est ça l'infant ici. Là. Alors, ici, ce qui est assez drôle, c'est qu'on peut voir que tout fonctionne par deux. Vous avez ici Velasquez 1, Velasquez 1, Velasquez 2, un couple royal, un couple d'amis qui sont en pénombre. Deux ménines, une debout, une à genoux. Deux petites femmes, une idéale et parfaite, l'infante, et une, beaucoup plus triviale, abîmée dans son corps, une naine, qui fait partie de la cour, hein, une femme. Et vous avez quand même deux êtres inférieurs, un quand même inférieur, supérieur, le petit prince, et l'animal inférieur, alors là, en degré précis, le chien, mais qui est quand même fidèle, etc. Donc vous avez en jaune toutes les personnes qui sont dans un monde, on va dire, plus trivial et plus réel, et envers un monde de personnages qui sont, au contraire, du côté du royaume, de l'idée, de la perfection, de l'idéal, etc. Donc une sorte de gradation, et Velasquez, à chaque fois, confond par là, ils sont entremêlés, beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus entremêlés, de façon plus discrète, subtile, il n'y a pas une opposition, mais c'est une construction à laquelle on se perd. Alors, il y a évidemment tout un univers, y compris sur le cadre, la lumière, le tableau, la lumière réelle, le miroir. Vous avez aussi une mise en abîme de ce qu'est une peinture. Ce que Velasquez aussi nous démontre aussi ce que c'est qu'une peinture comme surface, comme toile, comme rectangle, comme illusion, comme perspective, comme dévoilement, etc., etc. Donc c'est vraiment un chef-d'œuvre de complexité. Autant sur autre chose, hein, parce que ça c'est pour montrer quand même le point de fuite qui est donc là. Et là, vous avez lumière, porte, fenêtre, toile. Hein, vous avez ici toile, fenêtre, porte ouverte, lumière et miroir. Dans l'oxy, vous avez vraiment une sorte de symétrie incroyable d'analyse de ce qu'est la représentation, le proche, le lointain, etc. Alors, attendez, ça, je passe, puisque je vérifie un petit peu. Oui, alors, une fois que. Alors, ça, c'est les grandes machines de Velasquez. Les grandes machines de Velasquez qui sont alors, toujours très subtiles parce qu'on peut aussi les apprécier comme des portraits de groupe, comme des portraits de corps, d'êtres humains, de gens qui travaillent, un travail sur la lumière, une présence physique, un très beau travail pictural au sens strict de la manière dont justement Velasquez est virtuose pour à la fois montrer la peinture et vous amener jusqu'à la lumière. Ça, c'est quelque chose qui est très, très clair. Par contre, ce que Velasquez va savoir voir tout le temps aussi dans ses portraits, c'est quels que soient les gens qu'il va peindre, que ce soit le roi, que ce soit un bouffon, que ce soit un nain, que ce soit n'importe qui, c'est la dimension justement humaine et spirituelle. Ce qui fait qu'il y a une très grande empathie. Velázquez, c'est peut-être un des peintres qui est le premier peint des individus. Et cette question de l'individualité, y compris chez le roi. Ouvre-toi, c'est vrai. Le roi lui-même, qui est représenté, alors ça on le verra souvent jusqu'à chez Goya, hein, jusque chez Goya, où le roi lui-même est représenté et pas du tout idéalisé. Parce que là, c'est pareil, le roi n'est pas représenté comme un Hercule, ni même comme un tout-puissant, un Apollon, etc. Il est représenté avec une pose presque nonchalante, parce que ça, ça fait partie de la tradition, certaines traditions de représentation du roi. C'est comme je vous disais tout à l'heure, le roi n'a pas besoin d'être costaud, il n'a pas besoin d'être fort, il n'a pas besoin de... Il a la tristesse de la chasse, mais le roi peut être... Même Goya ira jusqu'à présenter Charles III, là. Un air de débile profond, Harry, c'est pas grave, puisque le roi est au-dessus de ça. Il a un corps, parce que, voilà, mais en fait, il est au-dessus de sa personne physique. Donc, la représentation, et en même temps, Velázquez le connaissait, donc il n'a pas caricaturé, il le présente mais comme un être humain, très sensible. Alors, il a les attributs du roi, la chasse, le fusil, le chien, la posture, il a à peine une croix, etc. Et voilà. Alors, le rapport au roi est. Je crois que je l'avais dit, mais tant pis. Philippe IV aimait tellement Velázquez qu'à la fin de sa vie, il voulait lui rendre hommage de son vivant. Velázquez, il a dit : je vais t'anoblir. Et donc, Velázquez, pour être anobli, il y avait un problème, c'est que Velázquez travaillait. Il était peintre. Tout le monde le savait. Il était peintre depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, Velázquez, devant la cour, a dû dire qu'il n'était pas peintre. Donc, tout le monde savait très bien qu'il était peintre, mais il a dit : je ne suis pas peintre, pourquoi être anobli ? Donc vous avez ici un déni officiel sur l'idée que pour être anobli, il fallait qu'il dise qu'il n'était pas peintre, ce qui était quand même un peu dur, oui, mais à prendre une sorte de jeu sur cette idée qu'il y avait deux mondes, et vers lui, il réussit à faire le lien entre les deux mondes. Et ça, c'est les frères valets de chambre du roi. Valets de chambre, c'est une haute distinction, mais si vous voulez, vous voyez que c'est incarné, ça croise aussi la proximité réelle de Velázquez avec le roi, jusque dans quelque chose de très incarné, puisque après, valets de chambre, c'est l'intimité, personne. Même du roi, Velázquez l'approche, et en même temps, le roi, pour se faire approcher de Velázquez, est obligé de l'extirper de sa condition, on va dire, triviale. Alors, Velázquez a aussi des portraits de philosophes, il y en a au Louvre qui sont très beaux, par exemple, Ésope, où vous avez cette idée d'incarnation, justement. Des philosophes, l'esprit, des personnages comme ça, vont avoir quand même des corps bien présents, bien fidèles, et des postures qui sont d'une modernité incroyable. La couture hors du temps, le visage, alors là on est aussi, regardez ces chaussures, la lumière prodigieuse, on peut les porter en pied, Ésope avec ses fables, alors il y a la fable aussi, c'est intéressant, parce que la fable c'est la parabole, hein, c'est le truc quotidien qu'on va transformer en sens, etc. etc. Vous voyez que les sujets sont fins, il y a toujours un enjeu de ce type-là, et là ces portraits en pied sont remarquables de présence, dans lesquels on va trouver à peu près toujours les mêmes qualités. Voilà un bouffon là aussi. Le bouffon, si vous voulez, c'est une sorte de contrepoint du roi nécessaire, qui est fou, n'obéit pas aux règles, peut être. Là, il était connu, hein. Alors, regardez ce rire, ce sourire, cette ironie incroyable. Là encore, on a toujours cette idée que, eh bien, finalement, un roi a besoin de son bouffon. Comme la terre et le soleil ont besoin l'un de l'autre, comme ces deux réalités, toujours. Là, il est par terre, il est au sol, il est éclairé d'une lumière incroyable.
C'est marrant, ça, collerette, c'est pas un gros paquet.
Alors voilà, mais ça c'est typique de Velázquez, justement. C'est que, aussi, bah, la peinture, c'est les deux à la fois. C'est à la fois, là, le document est pas de bonne qualité, mais chez Velázquez, il y a cette idée, c'est que la peinture, c'est à la fois de la mise, c'est de la trace colorée, et puis à la fois, ça peut devenir une lumière extrêmement grande, surtout sur le visage, une science incroyable, de l'anatomie, des ombres et de la lumière. Et même, la collerette, elle est brossée, jetée comme ça, ça c'est l'héritage de Titien et Cantore, c'est la virtuosité, toc, 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 far presto, comme disaient les Italiens, une peinture faite vite. Alors ça aussi, c'est toujours le bouffon. Alors là encore, c'est un, je ne sais plus qui c'est celui-là, attendez, c'est son nom, Don Juan de Austria, le bouffon, encore un bouffon, donc c'est un bouffon, oui, en costume un petit peu de soldat, c'est un peu la soldatesse qui va faire
avec les guerres, donc c'est une sorte de toujours de contrepoint, hein, d'ironie, qui serait une sorte de déguisement,
et les instruments, parce qu'ils instruments de musique, etc. Et vous voyez la manière, regardez la peinture, derrière, c'est broché. Tiens, tout va être perché de Velázquez, vous avez déjà, qui est-ce qui va s'inspirer directement de Velázquez, c'est Goya par la suite, Manet, qui, vous avez une filiation, si vous voulez, Titien, Gréco, Velázquez, Goya, Manet, dans lesquels ce sont des artistes qui vont peut-être être très proches du monde de la matière peinture. Et Manet impressionné. Vous avez cette idée d'une peinture physique qui aborde la question de la lumière peinte, mais qui est aussi la présence physique du corps de l'artiste. Parce que si on voit une trace, ben c'est qu'il y a un spectre qui a fait une trace, il y a un outil qui a fait une trace. Donc on n'est pas dans l'illusion. Ça aussi c'est très fort avec cette idée que justement la peinture n'a pas à avoir compte d'être une surface peinte. On n'est pas dans la négation d'une surface peinte, on n'est pas dans l'illusion de la lumière, on est dans une présence. Présence y compris de la matière. Et alors là on le voit plus que clairement. Alors ça passe évidemment d'abord parce que les gens ne sont quand même pas à la fête, ça on l'a déjà vu. La regardez encore, un autre bouffon intellectuel, je ne sais plus qui c'était, mais regardez le fond, hein. tout le monde dirait que Milan Sam Kiefer, avec des traces blanches sur le fond, le visage, une dignité, y compris dans un corps amoindri. Là aussi, vous avez cette idée remarquable que, là aussi, où est la beauté? Est-ce que c'est un beau corps? Est-ce que c'est au contraire une belle posture? Est-ce que c'est une authenticité? Et là, un travail extraordinaire de noir, blanc et gris. Hein. Et y compris, regardez, vous avez le texte imprimé, vous avez la plume et l'encre aussi. C'est-à-dire que la pensée, ça se construit, y compris, ça s'écrit avec une plume et du papier. C'est aussi toujours l'idée d'une incarnation de la matière, du travail. On trouve la matière quasiment toujours chez Velázquez. C'est quelque chose qui est récurrent. Il y a toujours ce rapport, que ce soit les forges, que ce soit le vin, que ce soit la terre, que ce soit la cuisine, que ce soit la peinture, que ce soit y compris même la pensée. Avec alors là une virtuosité incroyable sur les ombres, lumière, noir et blanc. Donc, courir à Madrid et regarder même Mars. Donc, le dieu de la guerre, on avait un gros beau avec ses moustaches, qui a l'air d'avoir tourné les arbres, qui a une sorte de slip en bleu. Donc, il a un côté presque grotesque, fatigué, un Mars fatigué. Il n'a pas les pectoraux d'Hercule, etc. Même le dieu de la guerre n'a pas du tout l'air d'un guerrier. Avec son calvaire trop grand, un calvaire de pompier. Il y a une ironie chez Velázquez, y compris pour parler des dieux. Quand il a fait Vénus, elle avait un côté banal dans le miroir. Hein, côté, et puis là, Mars, le visage en plus, quasiment dans l'ombre, et on voit les moustaches de... Alors peut-être, etc. Il est là, fatigué, un petit peu là, de quoi on ne sait pas, les armes par terre. Donc encore, un côté. Une ironie toujours chez Velázquez qui est assez remarquable. Mais licite, hein, alors évidemment, sur le Jésus, par contre, là, il était. Mais vous avez une anatomie remarquable. Alors là, il y a une lumière qui émane du personnage. Et là, une présence. Alors, à la première fois, il y a un noir absolu. Hein, donc là, on est dans quelque chose qui est la quintessence, presque sensée, c'est-à-dire que là, le Jésus en question doit concentrer à peu près tout. Les contradictions, toutes les extrêmes dans sa personne. C'est-à-dire que le blanc pur, la lumière, hein, la lumière solaire autour de l'auréole, etc. La dimension charnelle, hein, la vie, la mort, donc il est à la fois semblant et crucifié, en même temps il ne s'effondre pas, bref, il y a toute cette idée de la classicisme. Hein, il n'est pas dans l'horreur, on n'est pas dans la martyrologie, on n'est pas dans la souffrance, etc. Donc on a vraiment, et là, une sobriété totale. Hein, chez Léonard, dans ce Christ de Velázquez qui est très connu. Bon, ce je passe. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ça fait pas mal. Alors, je voulais les montrer ou pas, celle-ci? De Rembrandt?
Non, mais c'est pas bien.
Alors, autoportrait de Rembrandt, à la même époque, on montrait que c'est quand même siècle dans lequel on se pose des questions, Velázquez n'est pas le seul, sur qui fait quoi, qui est où, quelle est la valeur de l'ombre, de la lumière, du travail, etc. Et ça, c'est un petit autoportrait de Rembrandt, au chevalet, hein, où Rembrandt se présente là aussi dans un espace totalement dépouillé. On voit l'envers de son chevalet, on voit le chevalet comme un truc en bois que vous connaissez, la porte de son atelier, mal jointoyé, un mur crépi avec des lézards et même des trous de souris, le crépi qui s'en va, on voit l'abri. Ici, vous avez un plancher même paraboté, des palettes au fond, plusieurs palettes et une palette dans la main, lui-même avec des sortes de d'habits plus loin, et il se recule comme ébloui par la lumière du tableau qu'il vient de faire lui-même. Comme si, effectivement, il avait une sorte, il se surprenait, il se dépassait par sa peinture. Sa peinture dépasse cette fois-ci son corps. C'est-à-dire là, il permet, lui, son corps lui recule, et comme s'il avait tout donné à voir dans l'art. Et là où c'est très beau, c'est qu'on ne voit pas ce que c'est, mais on sait que c'est une œuvre d'art, et si vous regardez, alors là, c'est une subtilité incroyable, parce que, si je zoome à peu près, c'est sur la tranche du panneau, hein, on voit le blanc le plus absolu. C'est qu'en même temps, la lumière la plus absolue, elle est là où on révèle le plus la matérialité du support. C'est une planche, c'est une surface. Et cette surface qui est à la fois très très brute, et en même temps, dans les deux extrêmes, et à la fois la plus brute qui puisse être, et à la fois la partie la plus lumineuse de la toile, c'est cette tranche-là. Qui suggère qu'effectivement, Rembrandt a créé une œuvre spirituelle à partir d'un objet bien concret. Et ça, alors, Rembrandt, on peut le rapprocher quelque part, vraiment, il est exactement contemporain, il habite Amsterdam comme Descartes, qui au même moment dit « je pense donc je suis », il va tout réduire jusqu'à la petite seule trace de lumière qui puisse être en lui, c'est l'idée qu'il pense. À partir du moment où il pense, tout d'un coup, tout se reconstruit à partir de cette idée-là. Eh bien, vous avez un peu cette idée chez Rembrandt, c'est que l'acte de peindre lui permet de capable de transformer la boue de la peinture en lumière, en art, c'est ça qui tout d'un coup permet de reconstruire. Et la lumière, alors, à la différence d'autres artistes du clair-obscur, chez Rembrandt, c'est progressif. On passe pas de l'ombre à la lumière directement, mais une sorte de lumière qui finit par rayonner. Ça, c'est très clair chez lui. Et vous avez cette idée donc de deux mondes, et celles-ci qui ne sont pas opposées. Et puis vous avez l'idée du travail, de la matière, de l'artiste, et de son rôle. Ça sur les dieux et les hommes, ça je vais vous montrer, mais je le remonte, c'est le mythe fait par Rembrandt, là encore, des dieux et des humains, l'ironie qu'il y a chez Velázquez, parfois, on la trouve aussi chez Rembrandt, par exemple, dans l'enlèvement de Ganymède. Ganymède et Jupiter, ou Zeus, tombe amoureux du jeune berger Ganymède, puis Zeus, il est ouvert à toute pratique érotique, etc. Donc, il trouve un jeune berger acquis et ennemi, c'est même partie de la tradition. Donc, Zeus, lui, voit un jeune berger, il va l'enlever, il se transforme en aigle, son oiseau, et il va enlever Ganymède pour ensuite, effectivement, aller abuser de lui. C'est un rapt, le viol, etc. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, la version de Michel-Ange, c'est que Ganymède était assez content, finalement, d'être emporté par Zeus. Il est content d'avoir été choisi par les dieux. Parce qu'un peu comme Michel-Ange lui-même, qui pensait qu'il était un peu élu, qu'il était au-dessus du genre humain, qu'il était presque élu par Dieu, par les dieux, pour créer. Quand Michel-Ange peignait, il disait « je ne peins pas pour vous, mais je peins pour vos dieux ». Il ne voulait même pas être payé à la fin de sa vie, il dit « je m'en fous, je ne peins pas ça pour les sous, je suis au-dessus de ça ». Rembrandt, c'est quelqu'un qui est plus dans cette espèce de prosaïsme, etc. Et là, Ganymède est représenté comme un enfant qui pleure, qui n'est pas content, qui voudrait que les dieux le laissent tranquille. Hein, vous connaissez, on voit même qu'il urine, il y a un jet d'urine ici, hein, il a arraché les cerises, etc. Mais il peut s'accrocher à un arbre, il a été arraché à ça, donc il a résisté, et il pleure. Et là en plus, bon, le fait que ce soit un enfant, c'est aussi quand même un peu ça, montre aussi l'abus de pouvoir, hein, comme les dieux qui se permettent tout hein, avec les humains, et là vous avez une sorte de résistance d'une certaine humanité aux caprices. Des dieux, voilà. Et ça, c'est quelque chose chez Rembrandt quand on se retrouvait, cette espèce d'ironie, et réhabilitation du premier plan, réhabilitation des choses qui sont immédiates, et y compris de la matière. Chez Rembrandt, là, le corps et la matière se suffisent au niveau du mystère. C'est pas la peine, à la limite, d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher trop loin, puisque déjà, ce qu'on a sous les yeux, c'est assez compliqué. Hein, c'est assez compliqué quand on a le bœuf écorché. Si on se met à réfléchir à ce que c'est que de la chair, ce que c'est que de la viande, ce que c'est qu'un cœur, ce que c'est que des nerfs, ben c'est fascinant. Oui, il a des abdos. C'est quoi la vie? C'est quoi le corps? Et dans le bœuf écorché, vous avez le dévoilement total. Ça, c'est nouveau aussi, parce que, bon, machin, vas-y, il faisait des anatomies discrètement, c'était caché. Au XVIIe siècle, il y a ce qu'on appelle le théâtre anatomique à Amsterdam, ça commence à exister, il y a des gens qui le voient, Rembrandt, Descartes, le théâtre anatomique, etc. et d'autres. Et vous avez l'idée qu'on commence à aller au-delà des apparences, au-delà du corps, du visible. Ça aussi, c'est important, aller au-delà du visible, que ce soit pour les planètes. Ça, c'est aussi les infinis, les deux infinis d'après Pascal, exactement au même siècle. L'infiniment grand ou l'infiniment petit, et l'être humain qui est un peu un avantage. Et on peut se poser des questions en regardant le cosmos, mais y compris en regardant un corps. Et d'ailleurs, c'est ce que fait exactement Descartes à la même époque, qui est à Amsterdam aussi. Et l'anecdote, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais bon, c'est qu'on dit que Descartes reçoit la visite. Descartes était donc émigré à Amsterdam pour pouvoir publier ses textes sans être censuré, parce qu'à l'impression, il avait vu les procès de Galilée quelques années avant, vous avez des histoires comme ça, Giordano Bruno qui avait été brûlé. Donc Descartes sait très bien que les textes qu'il fait peuvent être frappés d'excommunication, il ne veut pas, puis lui-même il doute hein, sur Dieu, pas Dieu, mais géocentrique, géocentrique, il ne se prononce pas là-dessus, bref, avec quelque chose qui est assez... Spinoza se fait excommunier et chassé de son groupe juif, bien, il est converti, puis ensuite je crois qu'il se fait quand même excommunier, à la même époque, pour lui aussi remettre et douter de la nature même de Dieu, donc c'est vraiment un siècle de questionnement terrible. Et on dit que Descartes reçoit la visite chez d'un Français admirateur qui vient chez lui à Amsterdam, il sonne, il dit « Maître Descartes, je suis venu voir, je suis venu de Paris pour voir votre bibliothèque. » Et Descartes il dit « Pas de problème, rentrez, et il traverse la maison, il va dans l'arrière-cour, et Descartes lui montre un veau écorché, il dit « Ben voilà ma bibliothèque. » Parce qu'en fait, Descartes regardait un corps, en train d'essayer de comprendre. Il y a des textes entiers de Descartes sur le cœur, sur les esprits animaux, sur la matière subtile, sur ce que, avec, il se pose plein de questions, Descartes et d'autres à l'époque, sur le cœur. Qu'est-ce que c'est que le cœur hein? Oui, la chaleur, puisque quand on meurt, on est froid, quand on vit, on est chaud, c'est qu'il y a du feu à l'intérieur. Mais sauf que si vous ouvrez quelqu'un qui vit comme le chat de Sylvien, c'est ça, hein? Si vous ouvrez, il est mort, donc on ne peut pas voir le cœur. Donc la seule manière de savoir. Donc le cœur, il pense qu'on ne peut pas voir le cœur actif, etc., à cette époque-là. Et donc il croit que le cœur, bah, c'est une petite flamme. Mais évidemment, bah, dès que si vous ouvrez le cœur, elle s'éteint. Donc on la voit jamais, la flamme. Mais il pense que c'est un vrai feu. Un vrai feu qui chauffe la matière, qui chauffe certaines matières subtiles qui deviennent de la vie et qui deviennent, bah, qui vont animer les esprits subtils, le sang, les humains et même les pensées. Pour Descartes, quand on oppose Descartes la matière et le corps, c'est pas vrai. Chez Descartes, c'est un matérialiste, que l'esprit c'est de la matière subtile. C'est une matière qui est justement échauffée et les esprits subtils, subtils au sens aérien, hein, et qui vont se prêter, qui vont se diffuser. Mais il essaie de trouver le chemin. Et Descartes essaie de savoir où est l'âme aussi. Il parle de la glande pinéale, il sait où est le cœur, où est le cerveau, où est la rate, le foie, ça va, les reins, okay, les poumons, c'est bon, ça va. Et les yeux, les veines, mais l'âme, alors il dit que c'est de la glande pinéale, alors il demande toujours un truc qui serait un peu comme une manette de jeu vidéo, qui pourrait être animée par le corps, hein, ou animer le corps elle-même. Donc vous avez. Mais c'est très concret, hein, et il regarde. Il regarde tout Descartes de façon très très... Et Rembrandt est très proche de ce point de vue-là. Personnes qui se sont rencontrées, je vous ai dit, mais j'ai pas menti que Velázquez avait rencontré Galilée. Maintenant, il faudrait que des chercheurs réussissent à prouver que Descartes et Rembrandt se sont croisés à Amsterdam ou au théâtre anatomique, dans les rues, au marché, etc. Donc, et qu'ils ont échangé. Mais il y a beaucoup de points communs, y compris sur ce corps dont la lumière naît en même temps. Parce que plus vous vous rapprochez du corps physique et concret, de la chair, plus vous avez de la lumière. Et en fait, la lumière aussi, c'est l'esprit. Et donc, je pense donc je suis, c'est que plus on est, plus on s'incarne, plus on est dans la lumière. Alors derrière, vous avez une femme ici qui passe la tête, avec un petit peu d'ironie aussi, dans qu'est-ce que tu viens peindre ici, etc. Donc, la fascination pour le corps, elle va jusqu'au-delà de la chair, au-delà de l'apparence. Attendez, c'est pour ça. Alors l'ironie de Rembrandt, c'est la ronde de nuit, dans laquelle vous avez aussi tout à coup une sorte de l'ironie, ça vous le connaissez, hein. Vous avez les grands personnages qui voulaient représenter un petit peu comme les bourgeois, la garde, etc., la ronde de nuit avec la ronde de la garde, et les grands bourgeois avec leurs fonctions, guerrière un petit peu de carnaval, la guerre, etc., surtout de charge un petit peu. Et alors ils ont tous l'air en fait un peu, au lieu d'être bien rangés, ils ont l'air de partir un peu dans tous les sens. Alors ils n'ont pas été très contents de cette représentation qui était un peu ironique, je trouve, on l'a présentée en mouvement, un petit peu comme s'ils étaient en désordre, il y a une ironie toujours chez Rembrandt là-dessus. Et puis vous avez aussi un personnage assez étrange ici, alors, on dit que c'est la petite fille de Rembrandt, vraisemblablement, qui est en train de passer en courant, ou l'homme en train de courir d'après un autre petit personnage qui a l'air plus ou moins déguisé ici, qui tout d'un coup est en pleine lumière, et vient cette figure de petite fille qui vient déranger l'ordre un petit peu prétentieux, un peu orgueilleux, et une sociologie alors, un petit peu superficielle de ces personnages qui ont un grand pouvoir, et en même temps, finalement, qu'est-ce qu'on voit surtout, c'est le rayon de soleil qui passe ici, hein, furtif, et qui a l'air de s'en foutre complètement, qui a l'air d'être totalement libre, et tout d'un coup, l'irruption de la vie dans un monde un petit peu caricatural. Alors, en même temps, c'est un magnifique portrait de groupe, animé tout en étant sûr, qui est en train de partir, de se mettre en marche. Mais on est aussi dans deux mondes. Hein. Ça, cette idée de deux mondes, c'est quelque chose qui est très
fréquent. Un animal, là.
C'est un chien. Là. Là aussi, un petit désordre. Aussi. Alors, chez Rembrandt, vous voyez, là aussi, il y a souvent cette idée de ombre et lumière, deux mondes. Lui-même se représente comme un corps qui ne s'idéalise pas du tout. C'est l'idée qu'il a interrogé son physique depuis l'âge de quasiment 17-18 ans jusqu'à sa mort. Il a fait 40-50 autoportraits. Et sans aucune flatterie, sans essayer de s'embellir. Au contraire, sur un questionnement de qu'est-ce que c'est que ce corps-là, hein, qui est capable, donc qui n'est pas terrible, mais qui est capable de grandes choses. Hein, qui sort de là. Hein, qu'est-ce que je suis capable de... Avec l'œil, et souvent le plus lumineux, c'est le blanc, c'est le plus épais. C'est le plus épais, c'est que c'est là où il y a le plus de matière. Alors bon, on pourra en parler un peu plus souvent. Alors ça, c'est intéressant, le rapport aussi à Velázquez, c'est la question du toucher aussi. La question du toucher et du voir. Puisque chez Velázquez, on a aussi ce qui est lointain et ce qui est proche. Chez Rembrandt aussi, il y a toujours l'idée du toucher, chez Rembrandt, du premier plan. Vous regardez quasiment toujours là. La leçon d'anatomie du docteur Tulp, c'est toujours Rembrandt. Là, je vous montre Rembrandt. Mais il y a des points communs, cette idée. Et par exemple, c'est le portrait de Aristote et le buste d'Homère. Ça a l'air tout bête, mais on dit qu'Homère est aveugle, je sais plus le dire à la fin, mais... Homère était aveugle. Et Homer aveugle, néanmoins, grand poète. Homer ne voit pas. Hein, et en même temps, il faut que sa parole puisse prendre une certaine réalité. Et là, vous avez justement le buste, donc qui est impuissant, qui n'a pas de bras. Non seulement il ne voit pas, mais il n'a pas de bras. Donc c'est un buste sorti du passé, une sorte de lumière venue du passé. Mais pour l'incarner, Aristote lui touche la tête, et tout d'un coup, c'est comme si tout d'un coup, la lumière d'Homer passer par Aristote, hein, et faire une sorte de circulation de la main, du regard, etc. Quand il est incarné. C'est pas un hasard aussi si c'est Aristote, puisque Aristote, c'est celui des deux philosophes. Platon et Aristote, on va souvent parler, pour simplifier, Aristote est du côté de la physique, hein, et des sciences pratiques, donc de l'exploration du monde réel, pour aller vers des conceptualisations, vers des modélisations, alors que Platon part des modèles abstraits pour éventuellement informer le monde réel et trouver, voir des applications du monde abstrait dans la réalité du monde tangible. Donc vous avez, avec Aristote, l'idée que enfin, la connaissance passe par l'expérience, l'expérimentation concrète. Donc c'est par hasard s'il met Aristote aussi, qui tout d'un coup donne une sorte de... Donc là encore, vous avez toujours une problématique duale qui est très très riche, que ce soit chez Rembrandt ou chez Velázquez. Alors, dans les autoportraits exactement contemporains, ça c'est Nicolas Poussin. Nicolas Poussin, né aux Andelys, donc à près de Rouen, et mort en Italie. Hein, là, il a l'âge à 54 ans, et la date est de 1650, et donc on sait comme ça qu'il est né en 1587. Et Poussin, un truc classique français, donc exactement contemporain, de Velázquez, de Rembrandt, de Descartes, de trucs, machin. Et vers là, vous avez un petit peu l'équivalent, c'est intéressant, parce que c'est encore un autoportrait, où vous voyez que les peintres se mettent en scène comme peintres avec les différents états de la peinture. Vous avez aussi une connaissance de ce que c'est que peindre, au sens trivial du terme. Pour peindre, Nicolas, d'abord, ben, il faut un peintre. C'est lui. C'est un autoportrait. Et le peintre, c'est un œil, deux yeux même, un corps, avec un modelé en dégradé noir et blanc, une main, ici, avec un carnet de dessin. La peinture, ça commence aussi par le dessin. Et là, on est dans une sorte de perspective, ici, de réalité au premier plan. Perspective, modelé, dégradé, présence physique, comme s'il était devant nous. Et puis, vous avez ici une succession de plans. La peinture, c'est donc du dessin, un peintre, du modelé, du relief, mais c'est aussi une succession de plans, profondeur, de champ, si vous avez un premier plan, deuxième plan, troisième plan. Si vous regardez, une toile, deuxième toile, troisième toile, une fenêtre et un mur, et une lumière, qui vient peut-être, une porte plutôt, et une fenêtre suggère. Vous avez une sorte de déconstruction de ce qui représente la peinture, c'est un rectangle, c'est des cadres, c'est du volume, c'est une illusion, c'est un pain, c'est aussi du langage, c'est aussi de l'ombre et de la lumière figurées, ombre propre, ombre portée, sur la surface ici. Puis la peinture aussi, c'est voir loin. La ligne des yeux de Poussin est sur la ligne bleue, pas des Vosges, mais d'un lointain, d'un ciel. Donc la peinture, il regarde vers nous, mais après il a la ligne, ses yeux sont comme dans une sorte de lointain. Alors, vous avez aussi l'idée des cadres, vers la droite ou vers la gauche. Quand Mondrian fera ses carrés, c'est quasiment un prochain qui pense à chez les mais presque avec les couleurs primaires, le noir, le blanc, le jaune, le rouge et le bleu. Ce qu'on trouve ici. Avec l'idée du cadre. Et c'est vrai. Et là, vous avez cette idée des yeux qui vont voir loin, mais y compris la peinture, ça peut créer des mondes imaginaires. Et là, vous avez aussi cette idée qu'à la fois, on est bien dans le monde réel, mais il représente ici une antiquité romaine ou grecque qui regarde au loin. Ailleurs, donc c'est aussi un meilleur. Et puis vous avez la réalité, c'est plat, c'est une surface. Vous avez un mur, une porte, etc. Vous avez donc une sorte de décomposition de tout ce qui est des outils de la peinture. Alors il ne faut pas oublier, on est au siècle, le 17e siècle, c'est l'époque de Corneille, Racine, Molière, etc. Donc le classicisme, on connaît parfaitement les règles qui sont établies de façon académique, et avec des règles parfois strictes, mais sur lesquelles les grands artistes vont jouer à fond. Les règles, on joue avec les règles, les grands artistes classiques, c'est ceux qui jouent avec des contraintes et sont capables, d'abord ils comprennent, ils savent très bien qu'il y a des règles, et alors là, ils jouent avec ça. Poussin lui-même disait, attention, le cadre, c'est très important, il y a une lettre qui est très connue, il envoie un ami à qui il avait acheté un tableau, la manne, les Hébreux sont la manne dans le désert, etc., et dit, je vous en supplie, ornez-la d'un peu de corniche afin que les rayons visuels ne soient point égarés au dehors, etc. C'est-à-dire que la corniche et le cadre, c'est pour que le regard ne sorte pas du tableau. Le cadre, c'est parce que sinon, le regard, il sortirait du tableau. Et il dit, non, il faut que vous mettiez un grand cadre pour que rester dans le tableau, à plonger. Alors il dit, même c'est un office de raison, le tableau, c'est quelque chose qu'on doit analyser, on doit circuler dedans, etc. On doit penser un monde, c'est une sorte de machine à faire du sens. Et donc, chez Poussin, c'est très très clair. C'est-à-dire que vous avez ici Velázquez, Poussin et Rembrandt, vous avez des artistes qui connaissent très très bien leur art, savent très très bien ce qu'ils sont en train de faire, et jouent avec les règles de leur art, avec des points communs évidemment. Alors, et là, c'est très bien, parce qu'en fait, la peinture, le chapitre suivant, en fait c'est pour ça que je voulais faire un petit trait, c'était pas, j'ai pas dit trop, vous vous souvenez, j'avais dit des choses.
Quand même.
Non, j'ai pris des choses. Oui, mais aujourd'hui, j'ai pas fait que redire.
Non.
Et on va embrayer, je vais faire tout de suite un petit peu, parce qu'on peut faire des minutes, on va commencer un peu plus tard. Le nouveau chapitre, c'est ce tableau de Johannes Vermeer. C'est vers la fin de sa vie, puisqu'il va mourir à peu près vers 1668, je crois, ou un truc comme ça. Et c'est la lettre qui est au Rijksmuseum. Jeune fille lisant une lettre. Alors, Vermeer, donc, c'est un peintre hollandais, Pays-Bas, de Delft, donc, qui touche l'Aïe, hein, c'est même devant lui. Hein. Et Alors, il était connu que reconnu que récemment. C'est quasiment au XXe siècle, ou fin XIXe, début XXe siècle, que c'est qu'on a commencé à voir qui était ce peintre, parce que d'abord il y a peu de peintures signées par lui, qui sont très clairement signées, et ensuite il y avait ce qu'on appelle une école de Delft, dans laquelle il y a pas mal d'artistes qui étaient assez proches de ce qu'il fait, Girardot, par exemple, Peter Dehors, De Witt, et puis on verra quelques autres, Ehringa, qui n'est pas très connu, mais qui est très intéressant aussi. Donc vous avez un peu une école de Delft, de ce qu'on appelle des scènes de genre. Les scènes de genre, ça naît aussi en Hollande pour une raison toute simple, c'est qu'on est en plein pays essentiellement protestant, que donc tout ce qui était commande d'église a disparu, puisqu'on est dans l'iconoclasme protestant, il n'y a plus de peinture religieuse. Mais vous avez aussi autre chose, c'est qu'en Hollande, il n'y a pas de prince, on n'est pas dans un royaume avec un roi. Comme en Italie, comme en France ou en Espagne, ou avec un empereur comme en Germanie ou un roi de Prusse, etc. On est dans une sorte de république, plus ou moins, ou dans lesquelles aussi ce qui compte beaucoup, c'est chaque cité. Chaque cité a une sorte de gouvernement, et donc on a une sorte de relative démocratie, y compris la richesse n'est pas essentiellement autour d'une sorte de post-féodalisme et de grandes propriétés. C'est surtout des commerçants, des capitalistes, des, au sens strict, des banquiers, des entrepreneurs, des marchands, des bateaux, des armateurs. Donc c'est un pays à la fois très riche, mais on dit que c'est le premier pays qui vit vraiment sous un air pré-capitaliste et de commerce, donc de circulation des biens et de l'argent. Donc vous avez une multitude de gens qui sont assez riches, puisque la richesse est assez distribuée. Assez distribuée, elle n'est pas l'apanage d'une caste, hein, comme dans l'aristocratie qui accapare toutes les richesses, ou presque. Ce qui fait que vous avez pas mal de clients, parce qu'il y a pas mal de gens. Vous avez donc une peinture qui, au lieu d'être dans les sujets religieux, ou dans les hommages au roi, ou dans les sujets du cours, là vous avez une peinture qui va être une peinture d'agrément pour les appartements, pour les maisons, avec des clients qui vont être des riches bourgeois au sens large, c'est des habitants des villes, des gens qui ont les moyens, et des gens qui vont peindre des peintures petites ou grandes. Il y a certains vermeils, là d'en tenir, c'est grand comme ça. Hein. C'est petit, hein. Donc si vous voulez, vous avez aussi des peintures qui sont modestes, et puis vous avez aussi l'idée de valoriser bien le monde dans lequel ils vivent. Parce qu'on n'est pas dans un monde ailleurs, mais on est alors ben, dans un monde, le confort, la maison, la ville, les petites choses du quotidien, les paysages simples, les bords de mer, les étals de marchands, donc une espèce d'art du quotidien, de la ville, de la vie, et ce qu'on appelle des scènes de genre. C'est ni religieux, ni mythologie, ni peinture d'histoire, ni portrait de roi et de reine. Donc on est dans le début scènes de genre, alors on verra aussi la nature morte et le paysage, qui sont aussi deux genres, qui découle de la scène de genre. La nature morte, c'est juste les objets, et le paysage, c'est le paysage. Donc on est dans une sorte de contemplation du plaisir de la peinture sans grand sujet. Alors, il y a des peintres qui ont fait des peintures qui sont effectivement un peu... Voilà, on décolle pas tellement du bateau sur le bord de la plage, bon, c'est un peu lassant, on voit trois fleurs de raisin, c'est pas toujours passionnant, etc. Vous avez même certaines scènes de genre qui sont un peu fades. Vermeer, on s'est rendu compte dans l'école de Delft qu'en fait il y avait un artiste détaché parce qu'il y avait une subtilité bien particulière, une manière de mettre en scène la lumière et l'instant et l'espace qui était très subtil et qui constitue, si vous voulez, le corpus de Vermeer. Parce qu'il a fallu le reconstituer. Pendant un moment, on lui a attribué plein de peintures, ensuite ça a été désattribué, donc maintenant on commence à avoir une sorte de corpus de ces tableaux qui est à peu près cohérent. Les dates, on ne les a pas toutes. Puisqu'il a fallu retrouver des catalogues, des choses comme ça, c'était assez compliqué. Comme ces artistes-là ne sont pas forcément plus des artistes qui étaient... Il n'y avait pas des commandes officielles, ni de commandes royales, ni de commandes princières, etc. Il n'y a pas toujours des catalogues d'exposition, ni des... Les commandes ne sont pas toujours écrites. Donc, si vous voulez, c'est assez difficile pour les vrais historiens d'art, parce que la trace précise d'un artiste. Alors que... Velázquez, tout est à la cour de l'Espagne. Rubens, c'est pareil, c'était des grandes commandes, etc. Donc voilà, alors maintenant, Velázquez, Vermeer, on commence à peu près à avoir sa cohérence. Alors j'ai pris celle-ci parce que c'est une des dernières, dans laquelle justement on est dans une sorte de minimalisme assez extraordinaire de Velázquez, de Vermeer, qui commence par LV. Et vous avez justement, et c'est pour ça que je la présente juste après tout ça, c'est pas dans le hasard, vous avez un mur. En fait, on voit d'abord c'est un mur. Vous avez un mur avec des nuances de la partie de ce mur-là et la partie de ce mur-là. On suppose qu'il y a effectivement une lumière qui vient de la gauche. Alors, la lumière qui vient de la gauche, c'est confortée par le personnage qui est ici, comme dans la peinture de Poussin, un volume qui est ici devant nous, qui va distribuer la lumière qui passe de la gauche vers la droite de façon progressive, lumière de la gauche et ombre à droite. Avec ici donc un volume, c'est comme si on tournait autour d'elle. Ce qui nous invite aussi à tourner autour d'elle, c'est la chaise, qui est présentée en biais. On voit le dossier, là encore ça fait penser à l'arrière du tableau, cette fois-ci de Rembrandt. Cette fois-ci, comme si on pouvait rentrer, presque s'asseoir. Donc quelque part, on peut rentrer dans cette pièce, pourtant on ne voit pas le sol. On ne voit pas l'angle, on ne voit pas la fenêtre, on ne voit pas le plafond. Donc on pourrait dire qu'on est dans une espace extrêmement limité, minimaliste. Mais pourtant, vous avez quelque chose, on n'est pas du tout à l'étroit. On n'est pas du tout à l'étroit, pourquoi ? Mais d'abord, la lumière, je suppose qu'il y a une fenêtre. Et puis il y a des choses qui relèvent. Comme justement, regardez, comme je disais, le cadre, qui décadre. La carte ici, qui sort du cadre, très clairement. La carte ici au mur, qui est beaucoup plus grande que ce qu'on nous montre. Donc, vous avez aussi avec, l'idée, c'est que Vermeer, c'est un des premiers artistes qui cadre, qui va sélectionner. Plus tard, l'année, le fera, etc. Parce que l'idée de trancher dans la toile, de choisir un angle de vue, de ne pas tout mettre dans la toile, c'est aussi quelque chose qui est important. Et puis la carte en langue, c'est pas n'importe quoi. C'est un voyage, c'est un pays marin, c'est un pays de conquête, c'est un pays de commerce. Parce que la carte veut dire voyage. Mais j'ai fini. Donc vous voyez, l'idée, c'est qu'on est dans l'espace. L'idée, et puis la carte, c'est du dessin. Donc vous avez à la fois la ligne, le trait, vous allez avoir la surface blanche pure, vous avez le modelé. Vous avez le cadre de la chaise, le cadre de la chaise. Vous avez le tissu et la toile qui est au premier plan. Cette idée de la matière aussi. Et là, ça pensait à Velázquez avec les fileuses, etc. Donc vous avez tous les éléments de la peinture. Et puis vous avez le regard, hein, puisqu'il y a le regard de cette femme. Et puis alors vous avez ce petit détail incroyable. Alors maintenant, j'ai réussi enfin à trouver des documents de très très bonne qualité. Et vous avez regardé la lettre qu'elle a mis, tout petit rectangle, qui accroche la lumière et qui structure un espace en profondeur. Comme ça, on voit que la lumière, tac, tombe sur la lettre qu'elle dit. Donc, la fenêtre, elle aussi, la lumière de la fenêtre est concrétisée par cette petite surface qui vient arrêter la lumière et qui accroche notre regard et son regard. Hein? Avec aussi, alors là, vous allez croire que j'exagère, mais c'est pas vrai, les couleurs primaires, le bleu, le jaune et le rouge, qu'on trouvera toujours chez Vermeer, vous accrochez avec l'essentiel. Noir et blanc, ombre et lumière, bleu, jaune, rouge, les cadres. Ce qu'on a trouvé aussi chez Poussin, hein, noir, blanc, bleu, jaune, rouge. Donc vous avez des choses qui sont quand même assez claires chez les artistes. On n'a pas encore la théorie des couleurs primaires, mais ils savent. Hein, bleu, jaune, etc. Donc c'est pas écrit, mais ils le savent. Alors je continuerai la semaine prochaine, le flou là-dedans. Et autour de la lettre de Vermeer, on verra d'autres Vermeer, d'autres lectures, et vous allez voir qu'il y a quelque chose aussi qui devient. Et vous savez que Vermeer aussi, il fait l'astronome. Donc, la question de l'espace n'est jamais très loin, c'est ce qu'elle a dit. Donc, sinon, écoutez, est-ce que ça vous va si on commence à midi 10 la prochaine fois ? Tout le monde peut. Et si on termine dans ce cas-là à moins 20 ? Parce que moi, ça me stresse un peu moins. Voilà. Bon ben, à la prochaine. Merci.